Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h15 chaque quatrième samedi du mois pour notre rendez-vous mensuel. De travail depuis une dizaine d'années, c'est la porosité des frontières entre diverses disciplines. Il y a également une volonté très forte de partage et de mise en commun pour avancer tous ensemble. J'ai décidé aujourd'hui de m'intéresser à un mode d'animation ou d'accompagnement particulier qui représente pour moi la synthèse de tout ceci, et c'est le co-développement. Mon invité la pratique régulièrement et va pouvoir partager avec vous ses meilleures pratiques. Donc mon invité aujourd'hui s'appelle Sandrine Meffray. Elle est executive coach et elle est fondatrice du cabinet Alomé. Elle a une forte expérience en accompagnement et en communication, et en particulier sur deux sujets qui lui tiennent beaucoup à cœur. Tout d'abord, comment gagner en impact, et aussi le sujet du leadership des femmes. Un de vos outils que vous utilisez très fréquemment est le co-développement. Sandrine, bonjour et merci d'être notre invitée aujourd'hui.
Bonjour Mireille, c'est un vrai plaisir.
Mais écoutez, largement partagé. Ce que je voudrais, peut-être, on a deux parties dans cette émission. La première, si on pouvait faire quelque chose peut-être d'un petit peu théorique pour expliquer qu'est-ce qu'est le co-développement, dans quel cadre, s'il est venu en France ou ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'il marche, qu'est-ce qui fait qu'il ne marche pas. Puis peut-être dans une deuxième partie, après notre petite pause musicale, donner quelques conseils à nos auditeurs s'ils veulent s'engager dans ce type de démarche. Comment ils peuvent le faire tout seuls, comment ils peuvent rejoindre un groupe, enfin, de quelque chose de plus opérationnel.
Pas de souci.
Donc, la première chose, c'est quelle est la définition ou quels sont les principes du co-développement et quel type de situation un co-développement peut aider à résoudre ou pas.
Alors, le co-développement, comme son nom l'indique, c'est un développement qu'on fait en co-partenariat ou en co-avec des pairs, avec des gens qui partagent au moins un sujet qui les intéresse en commun ou un thème qui fait qu'à un moment donné, ils ont quelque chose à partager autour de ça.
D'accord. D'où est-ce que vient le concept ?
Alors, le co-développement, dans l'état actuel, il nous vient du Canada.
Comme beaucoup d'outils, bien sûr.
Voilà, énormément d'outils. Et quand on visite le Canada, Québec et ses environs et la partie qu'elle soit anglophone ou pas, et qu'on discute avec les Amérindiens, on se rend compte que probablement eux ils font du co-développement depuis très 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 longtemps, pas tout à fait organisé de la même manière, puisqu'entre temps c'est passé par les fourches codines, je dirais, de consultants et notamment de deux personnes qui s'appellent Champagne et Paillette. Bon, ça s'invente pas le nom.
Oui, il fait toujours beaucoup rire.
C'est toujours assez amusant de le dire, mais qui a structuré ce que les Amérindiens faisaient de façon assez commune. Leur principe étant, quand on prend une décision, chacun doit prendre la parole dans un groupe sans être interrompu, l'un après l'autre, et on prendra la décision après. Il n'y a pas une discussion avec un débat contradictoire.
Ce qu'on fait souvent chez nous.
Ce qu'on fait beaucoup chez nous. Mais plutôt un enrichissement de la situation par le fait que chacun va donner sa façon de voir la situation afin de permettre après que la personne qui a amené la situation ou qui a amené la difficulté ou le questionnement puisse éventuellement en faire une synthèse et proposer une solution qui est un peu la synthèse de tout ce qui s'est passé là. Donc, c'est ça l'origine.
Donc l'origine, c'est une méthode de prise de décision.
C'est une méthode de prise de décision et de résolution de problèmes.
D'accord.
Et en fait, c'est devenu par...
Beaucoup plus que ça.
Beaucoup plus que ça. C'est, oui, et en même temps plus structuré, parce qu'il était nécessaire de peut-être de mettre dans ce principe amérindien quelques règles, quelques fonctionnements qui soient un petit peu différents, puis qui s'adaptent aussi
à notre monde,
à notre époque, aux gens avec lesquels on travaille, etc. C'est devenu une méthode qui permet effectivement à des personnes, parce que c'est quand même des personnes qui apportent une difficulté, une question, etc., à des personnes de trouver dans un groupe un enrichissement qui leur permette, et ça c'est important, de prendre leurs décisions en autonomie.
D'accord. Donc, depuis combien de temps on l'utilise dans notre monde occidental, et en particulier en France, de façon structurée et pour résoudre quel type de problème?
Alors, en France, grosso modo, je pense que c'est arrivé, je pourrais pas l'année près, mais je pense que ça, entre 10 et 15 ans, pas plus.
D'accord.
C'est pas quelque chose qui s'est développé comme une traînée de poudre,
non.
Parce que c'est des façons de fonctionner qui sont un petit peu particulières. Et surtout, il fallait trouver son mode opératoire dans les entreprises notamment.
Tout à fait. Quelles sont les entreprises qui ont commencé à l'implanter et pour résoudre quoi? Pourquoi c'est arrivé tout d'un coup?
Alors les entreprises, je vais pas forcément donner des noms d'entreprises, c'est plutôt des grands groupes.
D'accord.
Des très grands groupes qui ont commencé à s'intéresser à cette démarche et notamment sur des difficultés de management.
D'accord. Donc,
soit parce qu'il y avait un peu de conduite de changement.
Qui ne se passait pas forcément de façon fluide, comme souvent.
Comme d'habitude. Soit parce qu'on se disait que tout ce qui était mis en place, notamment la formation, etc., c'était un tout petit peu descendant, surtout à l'époque.
Oui.
Et qu'il y avait peut-être d'autres façons de faire travailler les gens, et surtout sans qu'il y ait quelqu'un qui leur dise ce qu'il faut faire, mais plutôt qu'ils trouvent eux-mêmes
un début de solution
et comment on pouvait effectivement chercher ses propres solutions, mais avec l'enrichissement de ses pairs et pas forcément avec un formateur ou avec quelqu'un qui hiérarchiquement dirait il faut faire ça ou il faut faire ça parce que j'ai vécu telle situation moi et que je pense qu'il faut faire la même chose.
Et que du coup on va projeter bien sûr.
Et que bien sûr on va projeter.
Donc ça a commencé avec des équipes de gens et un facilitateur plutôt qu'un formateur. C'est ce que je crois comprendre entre les lignes.
Alors pas avec des équipes parce que un des principes du co-développement c'est que c'est une parole qui doit être libre et que normalement, ça a commencé plutôt sur du transverse, c'est-à-dire...
Donc surtout pas avec des équipes.
Alors, en l'occurrence, pas forcément avec des équipes ou surtout pas avec des équipes, même si à l'heure d'aujourd'hui, on peut considérer que peut-être sous des formes un petit peu aménagées, on peut le faire avec des équipes. Moi, ça m'est arrivé de le faire avec des équipes, notamment des équipes de ressources humaines. Ça leur permet de travailler sur leurs difficultés. Mais quand c'est arrivé en France et que ça a été déployé comme c'était voulu au départ, et pour des raisons d'ailleurs assez, logiques, c'était déployé sur du transverse. Donc des gens qui n'étaient pas forcément dans le même groupe, qui avaient le même type de métier avec des fonctions similaires, de manière à ce qu'il n'y ait pas un rapport hiérarchique entre les gens, y compris entre des gens qui ne seraient pas dans le même département, par exemple.
Ce qui permet la liberté de parole et quelque chose de beaucoup plus fluide, j'imagine.
Ça permet la liberté de parole et ça permettait à chacun de pouvoir donner son expérience, y compris si ce n'était pas forcément une bonne expérience, ou en tout cas s'il avait vécu un échec pour arriver à ce qu'il était en train de dire, de pouvoir le dire, sans être forcément jugé ou avoir une appréciation de quelqu'un qui aurait pu être hiérarchiquement au-dessus de lui, et qui fait que de toute façon, devant quelqu'un un petit peu au-dessus hiérarchiquement, on parle quand même moins facilement.
C'est clair. Comment ça s'est développé ensuite à partir de ces grands groupes qui commençaient à faire ça, j'imagine, pour des choses de gestion de projet qui dysfonctionnaient un petit peu?
Ça s'est développé un peu parce que d'abord ils ont commencé à en parler. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai appris que ça existait. Je me rappelle très bien, j'étais à une conférence un jour et il y a un représentant d'une de ces entreprises qui a expliqué un peu quelles étaient justement leurs expériences à partir de cet outil-là qui arrivait tout juste en France. Et donc du coup, on a été quelques-uns, coachs, consultants, plutôt peut-être des coachs au départ, à s'intéresser à qu'est-ce qui était en train de se passer là, qu'est-ce que cela permettait à des groupes de faire, et quel en était l'apport, la richesse, etc. Et de pouvoir le proposer aussi à des entreprises qui n'en avaient jamais entendu parler, étant entendu que là, je vous parle de quelque chose qui a un peu plus de 10 ans, et que c'était juste les prémices, quoi.
Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques exemples de types de groupes que vous avez animés?
Alors, moi particulièrement, j'ai travaillé avec cet outil-là dans le cadre souvent de programmes plus globaux, soit des programmes d'accompagnement sur des sujets particuliers ou de conduite de changement, justement. Ouais. Ou aussi, de temps en temps, sur des programmes de formation qui sont des programmes transverses comme des gros programmes liés à des... Par exemple, je vais citer quelque chose sans effectivement dire où c'était, mais on a fait un très très gros travail auprès d'une entreprise qui travaille beaucoup en mode projet pour développer non pas la technique de la gestion de projet.
Oui, qu'ils connaissaient par cœur, c'était dans leur ADN bien sûr.
Qu'ils connaissaient, et c'était, on faisait des rappels parce que j'ai un consultant qui pouvait travailler dessus par rapport à leur méthode de projet à eux, mais c'était pas l'objet. L'objet, c'était véritablement de... Quand on travaille en mode projet, qu'est-ce qui se passe dans les interactions avec les contributeurs, avec les gens qui sont les sponsors du projet, comment on fait en sorte que les gens qui participent au projet soient investis dans le projet, etc., etc. Et du coup, c'était un programme très en transverse avec des chefs de projet qui venaient de toute la structure. Et là, évidemment, le mode co-développement était intéressant parce que les chefs de projet qui venaient d'horizons très divers, qui n'avaient pas effectivement de lien hiérarchique entre eux, mais qui travaillaient sur des projets divers de l'entreprise. C'est une entreprise qui en avait beaucoup, hein, plus de centaines.
Hein, ah oui, d'accord.
De projets, donc on parle pas de 3 projets. Et du coup, ça permettait le co-développement à chacun de pouvoir expliquer une difficulté.
Et spécifique à sa zone.
Qu'il avait rencontrée. Sur son projet, sur son... Voilà. Et les autres, de pouvoir l'enrichir. De pouvoir donner un avis, de pouvoir... Alors, on n'est pas rentré dans le détail, mais le co-développement, pour moi, c'est comme une place de marché. Et à un moment donné, chacun fait son marché. Je ne sais pas si on va rentrer dans...
Ah si, on va rentrer complètement dans la technique. De façon pratique, qu'est-ce que vous diriez? Parce que je sais qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser. Est-ce qu'on fait, et dans quel cas peut-être, on fait du co-développement dans des groupes fermés qui durent pendant un certain temps et qui sont toujours les mêmes personnes? Dans quel cas on peut imaginer ou pas de le faire dans un groupe ouvert?
Alors ça, c'est une excellente...
Ça, c'est la première question.
C'est une excellente question. Le co-développement, dans son état... pur, j'allais dire, tel qu'il a été créé dans la doctrine.
Voilà. Dans tous les bouquins que vous pourrez lire.
Dans tous les bouquins que vous allez lire, ce sont des groupes fermés.
C'est ce que j'avais cru comprendre.
Parce que l'idée, d'abord, c'est de pouvoir aller au fond des choses.
Oui.
C'est véritablement à partir d'une situation de pouvoir la creuser et pas forcément de dire quelque chose qui soit juste superficiel. Donc ça veut dire que dans la doctrine, c'est le même groupe...
C'est pas une ventilation d'émotions.
Non.
C'est ça que je comprends.
Et dans la doctrine, le même groupe fermé va se retrouver plusieurs fois, mm-hmm. pendant des temps qui sont quand même relativement longs.
Donc vous pourriez définir la longueur du temps?
Alors, ça peut être, par exemple, des demi-journées.
D'accord, oui, c'est long.
Ça dépend du nombre de personnes qu'il y a autour de la table, mais on considère que pour traiter véritablement une vraie situation et aller au fond des choses, et pas que ce soit juste superficiel, truc et astuce, il faut permettre justement à une personne d'exposer sa situation de façon claire et approfondie, et aux autres de pouvoir aussi l'alimenter avec du temps et de la réflexion, et avec des retours, qui sont... Tout ça étant très cadré. Hein.
Et c'est en live et c'est en direct.
Et c'est en live et c'est en direct. Et donc, on considère que dans une session, il y a une personne qui expose une situation, ce qui fait qu'à la session d'après, une autre personne exposera la situation. On commencera à la session d'après à interroger la personne de la session d'avant pour voir où elle en est. Alors, c'est pas du tout...
Et si ça l'a aidé voilà. ou si elle souhaite aller plus loin ou ce type de choses?
C'est pas du contrôle.
Bien sûr.
C'est juste, voilà, qu'est-ce que t'en as retiré? Est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Et ensuite, on passe à une autre situation. Ce qui fait que, par exemple, sur un groupe de 8 personnes, on doit se voir 8 fois.
D'accord. Ça veut dire aussi, je lis entre les lignes, dans les règles du jeu, personne n'a le droit de ne pas parler?
Alors, dans les règles du jeu, ça c'est un peu le rôle de l'animateur, qui peut être soit quelqu'un du groupe qui
prend ses fonctions et qui décide de faire... Faciliter
voilà, ça demande une petite formation quand même, parce que l'animateur, normalement, n'est pas contributeur. Donc, ça veut dire que...
Être juge et partie, il faut avoir vraiment travaillé sur soi et sur le groupe.
C'est mieux si ce n'est pas le manager, parce que si c'est le manager, c'est un manager d'une des personnes qui sont là, on retombe dans la situation d'hiérarchie et ça ne marche pas du tout, la plupart du temps.
On va en parler sur les 12 and don'ts à la fin, clairement, ça fait partie des don'ts.
Voilà, donc ça, c'est un peu le danger. Je sais que beaucoup de managers sont tentés par ça, mais ça marche beaucoup moins bien quand même. Ou par un coach qui a été formé au co-développement, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, il existe sur le marché des formations pour se former au co-développement.
Tout à fait. Donc clairement, c'est un groupe plutôt fermé et sur un process assez long et sur des durées de sessions, de séances longues.
Normalement, dans la doctrine, effectivement... Un vrai processus de co-développement avec un vrai travail, quel que soit le sujet, que ce soit, je ne sais pas moi, des projets, que ce soit du management, que ce soit travailler sur une meilleure collaboration entre services, par exemple, pour un peu décloisonner, des choses comme ça, ou sur des questions de transformation. Effectivement, le mieux, ça va être des vrais groupes de co-développement qu'on va retrouver régulièrement et qu'on va faire travailler. Voilà.
Bon, on travaille sur les conditions, on travaille sur en mettant du lien, de la fluidité, on travaille sur des choses qui sont annexes pour permettre autre chose.
Absolument.
Dans quel cas, pour autant, comme c'est un outil, dans quel cas on peut utiliser cet outil comme on disait tout à l'heure, en groupe ouvert ou en groupe one-shot?
Alors, effectivement... Il y a des gens qui, à ma place, vous diraient qu'il ne faut pas le faire.
D'accord.
Parce que ça laisse la porte ouverte un peu aux trucs et astuces et à quelque chose où, devant une problématique, c'est un peu comme le coaching, le flash coaching ou les choses comme ça.
Oui, c'est vrai, c'est un terme que j'avais complètement oublié, celui-là.
Ou le speed coaching ou ce qu'on veut. Moi, je dis pas que ça fonctionne pas parce que je pense que ça fonctionne et je vais expliquer.
Ça peut débloquer.
Voilà, c'est-à-dire que ça peut juste mettre quelque chose en perspective à partir d'une idée de quelqu'un. Donc, les tenants de la doctrine vous disent que c'est pas possible. Bon, moi, en l'occurrence, je le fais. Mm-hmm. Je le fais
dans
certains cas et en prévenant que on ne règle pas
un problème
de fond.
Qu'est-ce que ça permet de faire, justement?
Mais ça peut permettre d'avoir des éclairages, des idées, et aussi ça peut permettre d'avoir une discussion qui n'est pas une discussion de salon sur un sujet. C'est-à-dire que je vais l'utiliser pas forcément pour régler des énormes problèmes, mmh. mais par contre, ça peut permettre... dans un groupe, et c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai fait dans certains groupes des équipes, ça a permis à ce que chacun puisse se parler sans être interrompu,
très important, cette deuxième partie de phrase.
Sans être interrompu, sans que ce soit un débat,
oui.
Sans qu'il y ait des réactions.
Oui.
Il y a des gens qui, à un moment donné, quand quelqu'un dit quelque chose, des gens qui veulent tout de suite parler et dire tout de suite quelque chose, ah mais on l'a déjà fait, ça va pas, ça nanana. On évite ça. Et du coup, on laisse quelque chose qui, dans le panier, on laisse quelque chose dans le panier qui permet à celui qui a donné sa difficulté ou qui a donné une situation sur laquelle il voudrait qu'on travaille, quand même la possibilité d'y réfléchir plus tranquillement après avec des avis ou des conseils.
Du coup, ça devient un recueil d'informations.
Du coup, ça devient un recueil d'informations, un recueil d'idées, un recueil de possibles, des ouvertures et des ouvertures de cadre. Parce que souvent, quand on est enfermé dans une situation ou dans une problématique, finalement, on tourne en rond.
Très souvent.
On tourne en rond avec ses expériences, on tourne en rond avec ses questions.
On tourne en rond avec ses murs.
On tourne en rond avec ses murs. Et du coup, à aucun moment, on fait ce qui permet un vrai discernement, c'est-à-dire une sortie du cadre. Une sortie du cadre, c'est comment je regarde la situation d'un autre point de vue. Et là, je trouve que ça peut être intéressant de faire un groupe qui permette ça. Juste ça. J'ai un autre point de vue.
Donc en fait, vous me dites que le cadre du co-développement, qui est très strict dans ce cas-là, permet justement une prise de recul et un enrichissement et une sortie de cadre.
Ben moi, je trouve, et à chaque fois que je l'ai employé comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé.
Écoutez, Sandrine, je vous propose pour l'instant une pause musicale avant qu'on arrive sur des questions plus pratiques. Comment on va faire du co-développement ?
Pas de souci.
Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui, et si vous passiez au co-développement avec mon invitée Sandrine Meffray. Alors Sandrine, de façon extrêmement pratique pour cette deuxième partie d'émission, je voudrais qu'on envisage deux cas. Mm-hmm. Si je suis un particulier, je viens d'entendre notre émission et je me dis, mais en fait c'est vraiment sympa, je voudrais faire partie d'un groupe de co-développement. Qu'est-ce que je peux faire et est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire comme ça en entrant chez moi dans une demi-heure ?
Alors là, pour tout vous dire, c'est un peu une colle, parce que je suis pas sûre qu'on va trouver des groupes de co-développement comme ça. C'est plutôt des outils qui peuvent être utilisés déjà dans des cadres.
J'imaginais, je sais pas, est-ce que mon syndicat professionnel va faire ça? Est-ce que des
c'est
groupes...
Possible.
C'est plutôt comme ça que j'irais?
C'est possible. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se retrouver dans des organisations, quelles qu'elles soient, des associations, des choses dans lesquelles on vit actuellement, enfin, où on peut trouver des groupes de co-développement. Parce qu'il faut faire quand même une différence entre un co-développement et un groupe de parole, par exemple.
Clairement.
Qui, effectivement, si on est un particulier et qu'on a quelque chose à régler, on va peut-être plus facilement trouver des groupes de parole. Maintenant, il y a effectivement, de temps en temps, des groupes de parole...
Professionnels.
Non, mais même des groupes de parole sur des sujets divers et variés.
Qui font appel à des outils de co-développement.
Qui peuvent, de temps en temps, utiliser les outils du co-développement pour réguler la parole. Parce
D'accord.
que c'est un outil très puissant pour réguler la parole. Donc, suivant comment... Quel est l'animateur et comment on a envie que la parole circule dans un groupe? On peut utiliser un outil de groupe de parole classique où chacun prend la parole et puis finalement il y a une interaction. Ou des outils de co-développement où il y a une régulation à la fois du temps de parole et de la façon dont la parole est prise pour déployer un certain nombre d'idées, etc. Donc ça c'est plutôt à un moment donné... C'est plutôt un outil de comment on régule quelque chose. Et là, en particulier, il peut tomber sur un groupe de parole qui est régulé.
Selon ses méthodes.
Suivant une méthode de co-développement, ça existe.
Donc ma deuxième question, et là on est vraiment au cœur du sujet. Je voudrais créer un groupe de co-développement dans mon entreprise ou avec des pairs qui viennent d'autres entreprises. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et comment il faut que je m'y prenne à partir de cette idée où je me dis, tiens, c'est un outil qui va nous permettre de gérer des difficultés qu'on a tous. Qu'est-ce que je fais?
Alors vraiment, et c'est toujours le cas de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est de bien réfléchir à qu'est-ce qu'on en attend. Parce qu'effectivement, quel est l'objectif et est-ce que l'outil correspond bien à l'objectif qu'on se donne?
Donc l'outil, ça devrait être quel type d'objectif? Dans quel cas je vais utiliser ce groupe que je vais créer?
Alors le co-développement, c'est vraiment... une perspective de développement, donc de développement de l'individu au travail.
D'accord, c'est très clair. Ouais.
Voilà, et à un moment donné, dans le cadre du groupe, parce qu'on aide un individu à se développer, tout le monde en profite. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est basé là-dessus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va aider quelqu'un à travailler sur un certain nombre de situations, on s'aperçoit que les autres ont peut-être vécu des situations semblables. Ou
même s'ils les ont oubliées ou s'ils n'en ont pas parlé.
Ils vont peut-être en vivre. Et que l'idée, c'est en enrichissant une personne, on s'enrichit tous. Ça veut dire qu'on joue le jeu.
Alors, oui, qu'est-ce que ça veut dire si on va vraiment dans la pratique sur l'organisation, on va dire, de la première séance ou des séances?
Alors, ça veut dire que, par exemple, effectivement, dans une première séance faite de façon un peu, comme on a dit tout à l'heure, mais de toute façon, même dans une séance que l'on peut avoir organisée un peu différemment, il y a un moment où on travaille pour quelqu'un.
D'accord.
Donc, ça veut dire qu'on va passer du temps à réfléchir sur la situation ou la difficulté de quelqu'un d'autre.
Tout à
Donc,
il
faut accepter qu'on est là, qu'on passe du temps, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, et que pendant ce temps-là, on n'est pas en situation d'être aidé, mais d'aider. Et en même temps, mais ça, on s'en rend compte après, donc c'est en règle générale...
En même temps, on va en gagner quelque chose.
Oui, on prépare les gens, on leur dit, vous savez, vous allez donner des idées, etc., mais vous allez vous rendre compte qu'en réfléchissant sur la situation de quelqu'un, ça vous aide à réfléchir sur vos situations. Mais ça, c'est ce qu'on dit aux gens, mais il faut qu'ils
Entre le dire et le vivre,
voilà.
Je pense qu'il y a tout un step qui est important.
Donc, il faut qu'ils aient confiance dans la démarche.
Bien sûr.
Et on se rend compte que quand les gens acceptent la démarche, ils en ressortent, même si on n'a pas traité leur situation ce jour-là, parce qu'il fallait attendre le mois prochain, ils en ressortent complètement ravis parce qu'ils ont entendu plein de gens parler d'une situation qu'ils ont peut-être rencontrée, qu'ils ont peut-être vécue, où ils savent que cette situation existe et qu'elle pourrait leur arriver. Et du coup, ils ont entendu plein de façons de la regarder, de la traiter. Et en règle générale, on s'aperçoit que tous les gens qui participent à une session comme celle-ci, à un moment donné, notent des idées, etc. Et pas seulement celui qui est venu avec sa situation.
Donc, ils enrichissent leur propre référentiel de façon incroyable.
Absolument incroyable. Il faut accepter de rentrer dans ce jeu-là qui est... Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas à moi de présenter ma situation. Je devrais revenir pour ça et on traitera mon cas plus tard.
Donc, dans les règles de séance, il y a des choses qui doivent être très claires, j'imagine, pour que ça fonctionne.
Ça, c'est ce qu'on fait dès la première séance. C'est-à-dire que dès la première séance, on pose de façon extrêmement claire les règles de ce que l'on va faire. C'est-à-dire...
Par exemple, si j'arrive en retard, il se passe quoi ?
Si vous arrivez en retard, il y a de fortes probabilités que... Alors, ça dépend du retard. Si c'est 10 minutes, c'est pas un souci, mais on n'arrive pas à un groupe de co-développement avec 2 heures de retard, parce que du coup, on n'est plus dans le groupe. Ah. On n'a pas respecté la règle du jeu. La règle du jeu, c'est que je participe à tout, y compris si je ne suis pas concernée. Il y a aussi quelque chose qui se passe dans la dynamique
du groupe
concret.
Bien sûr.
On arrive avec 2 heures de retard, on n'est plus dedans. Donc, en règle générale, ça ne se fait pas trop et on fort risque que l'animateur ou l'animatrice explique que c'est dommage, mais ça sera pour un autre groupe ou dans une autre session. Parce que ce groupe-là...
Donc, ça peut être une autre session ou un autre groupe.
Ah, complètement, oui.
D'accord. Donc, ça va jusqu'à l'exclusion de ce groupe-là.
Ben, ça peut être. Écoute, je suis désolée. Il y a un vrai... Alors, surtout si c'est la première fois. Bon, si c'est un groupe qui dure depuis un certain nombre de sessions et qu'on en est à la 5e ou 6e fois, c'est très différent parce que la dynamique a déjà été installée.
Bien sûr.
Mais si c'est la première fois, c'est un petit peu embêtant quand même.
Qu'est-ce qui se passe aussi pour, j'imagine, il doit y avoir beaucoup de freins sur la confidentialité. Mais si je raconte telle chose, les autres vont savoir que... Comment ça se passe ? Parce que ça va être compliqué, au départ en tout cas, de lever ces freins.
Alors, d'abord,
ça se traite sur la durée ou c'est autre chose ?
C'est ce qui est intéressant, c'est que globalement, moi franchement, je n'ai jamais vécu l'inverse, je touche du bois, c'est que quand on explique à un groupe qu'on est dans des situations de confidentialité, que ce soit en co-développement ou en autre chose, parce que moi j'anime d'autres groupes, et notamment un programme qui s'appelle Springboard, qui est un programme de développement de carrière pour les femmes, où on a des moments comme ça, où on reçoit des invités qui se dévoilent énormément. Quand vous dites à un groupe, il y a quelqu'un qui va, où vous allez à un moment donné vous dévoiler, et c'est extrêmement important que ça ne sorte pas. On se rend compte que c'est très respecté. Donc, c'est clair que les membres du groupe prennent un engagement. Ils s'engagent verbalement, à respecter le fait que ce qui va se passer dans le groupe de co-développement est évidemment confidentiel. Et que, bien évidemment, si à un moment donné, quelqu'un faisait une rupture de ça, ça mettrait en cause tout le groupe.
Bien sûr.
Globalement...
C'est respecté.
Alors moi, de mon expérience, je n'ai jamais entendu quoi que ce soit qui soit sorti après un groupe.
Est-ce que du coup, parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires de gens qui cherchaient à mettre en place ça dans des entreprises pour développer. Et au fil du temps, il y avait des gens qui disaient j'ai pas le temps de venir, ou là ça va me gêner parce que l'autre service va savoir que... Est-ce que c'est une mauvaise analyse de départ de à quoi ça sert et comment on le met en place ? Ou est-ce que c'est des choses qui arrivent et on arrive à les cadrer pour passer au-delà ?
Je crois qu'effectivement, quand on veut déployer des outils comme celui-ci, il faut les communiquer vraiment de la bonne façon. C'est-à-dire expliquer qu'effectivement, il y a des règles. Que l'idée, c'est vraiment de se développer et d'aider les autres à se développer. Donc, on est dans un cadre de soutien mutuel, qu'on n'est pas dans un cadre de compétition. La raison aussi pour laquelle on fait aussi attention aux membres que l'on met dans un même
Donc,
groupe.
Donc, ça fait partie de l'alchimie de départ.
Ça fait partie de l'alchimie de départ. Comme d'ailleurs, ce n'est pas le seul outil où il y a cette question de...
Bien sûr.
C'est peut-être pas intéressant toujours de faire travailler des gens qui pourraient être en compétition sur un sujet. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que le co-développement où ça pose problème. Donc, il y a comment on monte un groupe Et comment, à partir de ça, on va communiquer sur ce qu'on est en train de faire et sur les objectifs. Et je pense que de toute façon, quand on veut créer, mettre en place comme ça des outils comme ça, si on n'a pas l'habitude, il vaut mieux s'entourer de gens
qui savent faire. Et le faire de façon extrêmement précise.
Qui vont poser les bonnes questions, quitte à ce que...
Ça prenne du retard.
Oui, puis il peut y avoir un soutien au départ, un accompagnement au départ, avec un cabinet comme le mien par exemple, et puis après... Une fois qu'on a mis les choses en place, qu'on sait un peu comment ça fonctionne, qu'on a pu aussi un peu se former à l'animation d'un groupe, on peut peut-être envisager de le faire tout seul. Mais c'est pas inintéressant de peut-être pas se lancer tout seul.
L'idée, c'est que c'est pas le dernier outil à la mode qu'il faut faire pour faire comme les autres. Ce qui peut être le risque.
Vaut mieux éviter parce que ça peut très très vite dégénérer en discussion de salon. Ou en moment où finalement on a l'impression qu'il se passe rien ou pas grand-chose. Où finalement personne dit rien parce que personne n'ose rien dire. Et donc du coup on n'a plus envie de venir parce que comme il se passe rien, on vient pas. Parce qu'on a quand même autre chose à faire.
Comment on traite les absences justement? Comment est-ce qu'on maintient cette espèce de nouveauté, de thrill de départ qui consiste à dire je vais faire un truc génial sur la durée? C'est pas forcément très facile parce qu'une entreprise, vous le savez, a des cycles de vie compliqués, les gens aussi. Comment on fait et comment on gère l'absence d'une personne peut-être à une séance pour la réintégrer dans le groupe? Comment ça se passe? Imaginons qu'on a eu une première séance qui était super, qu'on a fait très attention à tous les gens qui devaient être là et aux conditions pour que ça marche. Comment on fait pour que ça dure?
Alors, la plupart du temps, c'est intéressant quand l'outil, il est intégré à des programmes. Ça, c'est ce qui peut permettre...
C'est ce qui lui donne une colonne vertébrale.
Ça peut vraiment lui donner une colonne vertébrale. Ou à des sujets qui sont des sujets assez, qui peuvent être assez prioritaires. Donc ça, c'est quand même assez important. Et que ce soit suivi par quelqu'un... ou des RH, ou quelqu'un...
Un sponsor
dans l'entreprise.
Qui a un vrai pouvoir. Pas de coercition, mais qui a une vraie influence.
On comprend bien que si ça a été mis en place, c'est parce que c'est important et que ça va apporter quelque chose à l'organisation. C'est-à-dire qu'effectivement, sur ce point de vue-là, ce genre de sponsoring est assez intéressant. Maintenant, une séance qui s'est bien passée, il y a un absent à la séance d'après, c'est peut-être pas non plus une catastrophe, parce qu'on a déjà créé quelque chose dans un groupe, surtout si la séance a duré un certain temps, et que si la personne elle est juste absente parce qu'elle est malade, qu'elle revienne la fois d'après, ne posera pas forcément une difficulté très importante, à partir du moment où on a créé dès le départ une vraie dynamique du groupe et qu'on a bien senti et bien vu qu'il y a quelque chose qui avait démarré et que la personne n'est pas là parce qu'elle a une bonne raison, c'est pas parce qu'elle n'a pas envie. Maintenant, si elle n'a pas envie de venir, ça vaut toujours le coup de toute façon...
De re-questionner le départ.
Le départ, parce que être forcé à être un groupe de CODEF, ça ne fonctionne pas non plus. C'est comme le coaching, on ne force pas des gens...
À se faire coacher,
on ne force pas des gens à se co-développer. C'est très compliqué.
Il y a deux notions. Il y a d'abord développer, ils veulent ou ils veulent pas. Et ensuite, avec les autres, ils veulent ou ils veulent pas aussi. Donc, difficulté au carré.
Donc, c'est un peu compliqué d'être très coercitif. Donc, à un moment donné...
c'est même anti-principe.
Si quelqu'un ne veut pas, n'a pas envie, on sent bien qu'il y a quelque chose qui bloque.
Comment on traite si le groupe ou si l'animateur, s'il y a un animateur de groupe, sent qu'il y a quelque chose? C'est très personnel comme ressenti et en même temps c'est très systémique.
En même temps, on est formé pour ça.
Donc on parle.
Aller discuter avec une personne à la fin d'une session, lui demander si on pourrait avoir une petite vingtaine de minutes de discussion
en tête à tête,
au téléphone, se rappeler, parce qu'on sent bien qu'il y a une difficulté et qu'on aimerait en discuter.
Ça fait partie de l'outil.
Ça fait partie des outils qu'on sait bien manier, parce que dès qu'on fait du groupe, on sait que ça
arrive.
Peut se produire. Et que quand c'est des groupes qui doivent se réunir souvent...
C'est l'occurrence, c'est encore plus forte.
Surtout avec des outils comme celui-ci. Oui, c'est important de savoir qui s'y passe, quoi.
Alors ma question, c'est une fois qu'on a réussi la première séance, une fois qu'on a réussi le process sur la durée, comment le groupe, qu'est-ce qui se passe à la fin du groupe? Comment est-ce qu'on décide que le groupe a une fin? Et qui décide que le groupe a une fin? Et est-ce que c'est quelque chose de bien? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas bien quand ça s'arrête? Alors, comment on fait pour que ça soit bien?
Les questions de début et de fin sont très liées aux objectifs et au pourquoi on a voulu créer cet outil. Si c'est un outil qui est là pour régler quelque chose, des interactions entre équipes par exemple, on peut des fois considérer qu'à partir du moment où chaque membre de l'équipe a pu exposer une situation,
le problème est résolu.
Peut-être que le problème n'est pas résolu, mais en tout cas, on a donné tous les cadres pour qu'il soit réglé et qu'à la dernière session, ou qu'on peut créer une session après, pour justement discuter de savoir si on a réglé quelque chose ou pas, pour savoir si ça doit s'arrêter ou pas. Donc, les problèmes de fin, si on est dans le cadre d'un programme avec un début et une fin, comme c'était le cas de l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, c'est clair que l'éco-développement, on peut les arrêter à la fin, mais pour être tout à fait honnête, ma cliente m'a dit que à la fin du programme, qui était un programme complètement entier, avec de la formation, des coachings aussi individuels et du co-développement, à la fin, ils ont gardé des groupes de co-développement entre les chefs de projet et ils les ont animés eux-mêmes pour que les chefs de projet continuent à travailler entre eux et à partager. Donc tout ça, ça dépend un peu des objectifs.
De la situation.
De la situation. Et en fonction de ça, on va décider si ça se termine ou pas. C'est marrant parce que les gens qui ont goûté à ça, quand ça s'est bien passé, souvent ils ont envie de continuer. Mais bon, des fois, c'est pas possible aussi.
Mais Sandrine, écoutez, je vous remercie vraiment pour ce très joli moment de partage. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même principe et avec le même plaisir le mois prochain. À bientôt.
Au revoir.